Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Jacques. Ça fait un petit moment qu'on n'y est plus allé dans cette épître que nous suivons. Alors, c'est pas dimanche après dimanche, mais c'est un dimanche de temps en temps comme ça, où on avance dans cette épître avec une ligne de pensée dans toute cette épître qui est celle de la maturité. Et nous la lisons et nous y réfléchissons sous cette facette-là, comment mûrir dans ma vie chrétienne, quels enseignements je peux tirer de Jacques et du Saint-Esprit qui écrit par sa plume pour pouvoir grandir, croître, ne pas rester un enfant dans la foi, mais devenir un homme, une femme affermi, parfait, est le mot qui est employé et que nous traduisons par mûr, bien mûr. On est arrivé au chapitre 3, donc je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 3, Jacques, chapitre 3. Nous avons vu deux grands traits de la maturité, on a vu bien plus, mais si l'on doit retenir, Jacques commence en parlant des épreuves. Il s'agit dans notre vie d'avoir une attitude, une compréhension, un positionnement selon Dieu mûr face aux épreuves de la vie qui peuvent surgir. Et cette attitude va nous permettre de grandir. Le deuxième aspect qu'on a vu, c'est une attitude mûre face à la parole de Dieu. Non pas en l'écoutant seulement, sans la mettre en œuvre, en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Mais celui qui plongera ses regards dans la loi parfaite sera heureux dans son activité. Et puis nous avons commencé à nous apercevoir dans le chapitre 2 que la maturité du chrétien se traduit en actes. Et nous sommes devant un chapitre majeur ce matin qui concerne la maturité dans le contrôle de nos paroles. Alors, on a une grande bouche et ce matin on va parler de notre grande bouche. Mais Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est pas tant la grande bouche, c'est le cœur qu'il y a derrière. Et nous sommes invités là aussi à la maturité. Nous allons voir deux aspects. Être des chrétiens qui cherchons la maturité, ce qui est parfait, ce qui est bon, vis-à-vis de ce qui sort de notre bouche. Mais réciproquement, on va voir quelque chose de formidable, c'est que justement ce qui sort de notre bouche va être un outil pour devenir de plus en plus mûr. Je reviendrai là-dessus. Ça va dans les deux sens, c'est une réciprocité. Alors, peut-être deux passages en introduction. Proverbe 15, verset 4. Gardez néanmoins votre page en Jacques 3 ouverte. Mais en Proverbe 15 et au verset 4, nous lisons ceci. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Elle en a du pouvoir, notre langue. En bénédiction, en malédiction, en construction, en destruction. Proverbe 12, verset 18, Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Voilà juste deux versets comme ça, pour, simplement pour nous mettre déjà, d'ores et déjà, en tête l'importance de nos paroles, de ce qui sort de notre bouche. Lisons en Jacques au chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, nous voilà dans la maturité. Un homme mûr, un homme accompli, un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Nous arrêterons notre lecture ici. Alors, on connaît bien ce passage et il est bon de le relire, de nous le rappeler. Parce que, tout simplement parce qu'on parle tout le temps en fait. Et je pense qu'on parle plus souvent que ce qu'on relit ce passage. Donc du coup, relisons-le souvent, parlons moins et profitons ce matin de ce que le Seigneur place devant nous au travers de Jacques pour réfléchir à l'usage de notre bouche et pour voir comment nous pouvons grandir en maturité dans le contenu, et pas que le contenu, mais aussi le ton, l'exclamation de nos paroles. Il n'y a pas que ce qu'on dit, il y a comment on le dit. Et puis voir aussi comment, au travers de ce qu'on dit, ça peut nous pousser à la maturité. Le texte nous dit que la langue, c'est un feu, c'est le monde de l'iniquité, c'est un venin mortel. Et effectivement, nos paroles peuvent être un concentré de péché. Si on commence à faire le listing de tous les péchés qui se discernent, qui s'expriment, qui se voient, qui s'entendent, qui émergent par notre bouche, ben on se dit effectivement, c'est un concentré de péché. Quand je me vante, j'ai des paroles un petit peu là, qui me mettent sur le piédestal et puis qui rabaissent un peu les autres. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit Jésus. Et c'est l'orgueil qui est derrière. Voilà l'orgueil qui nous tient et qui va s'extérioriser par des mots. Peut-être, et ça nous est souvent dit dans la parole de Dieu, ce sont des propos ambigus, des blagues obscènes. On aime bien parler en dessous de la ceinture et dans bien des milieux professionnels, les conversations sont des propos, des blagues douteuses. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a quelque chose de faussé vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de nos appétits, et le Seigneur veut nous faire prendre conscience que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et que si ça s'extériorise avec des tas de propos salaces, ambigus, peut-être ce sont des injures qui sortent de notre bouche, des mots grossiers, ce sont des cris, de la dureté. Et là, ça va pointer du doigt la colère. Oh non, pas la colère selon Dieu, comme Jésus a pu la vivre, mais la colère selon l'homme. Et cette colère-là, elle bouillonne, et puis elle va s'extérioriser, et elle va cracher en insultes, en cris. Peut-être, c'est plutôt des paroles manipulatoires, de la flatterie qu'on a. Et là, ça va faire ressortir l'hypocrisie qu'il peut y avoir dans nos vies. Peut-être tout simplement, on n'arrête pas de parler de soi. Et ça nous centre sur l'égoïsme qui nous habite. Mais ça va s'extérioriser. La personne égoïste, elle ne va parler que d'elle. Et vous aurez passé tout un temps ensemble sans qu'elle pense même à vous demander vous, au fait. Par exemple, hein, ça peut s'exprimer comme ça, mais voilà, ça s'exprime par des paroles. Évidemment, dans nos paroles, il y a le manque d'amour qui va s'exprimer. La haine, des paroles de haine. Ce ne sont pas les paroles le problème, c'est la haine. Ce ne sont pas les cris le problème, c'est la colère, etc. Hein ? Ce sont les symptômes, c'est ce qui va sortir de cette abondance du cœur. Et on peut continuer comme ça et se dire, mais finalement, oui, ce qui sort de notre bouche, c'est qu'un concentré de péché. Tout azimut, ça peut être d'ordre sexuel, ça peut être de l'orgueil, ça peut être de l'égoïsme, ça peut être... Et hop, ça sort par là. On a un bel aperçu de ce qu'il y a dans notre cœur lorsqu'on analyse et peut-être qu'on couche sur le papier et qu'on relit tout ce qu'on a pu dire dans la semaine. L'apôtre Jacques veut vraiment qu'on se rende compte que les paroles qu'on prononce ne sont pas juste un aspect mineur parmi d'autres dans notre manière d'être, mais elles constituent presque un résumé de notre état moral. Alors on va voir, c'est très intéressant parce que ça va être un thermomètre pour nous. Quand on veut savoir dans quel état spirituel on est, il suffit juste de s'écouter parler, et puis hop, vous savez. C'est difficile en ce moment de savoir si on a le Covid ou pas le Covid. Bon ben, si on veut savoir dans quel état spirituel on est, on s'écoute parler un petit moment, et puis on va avoir un aperçu, on va savoir sur quoi travailler. Alors, on peut prendre un exemple. L'utilisation de gros mots, ça nous concerne certainement pour la plupart. En Éphésiens 5, verset 4, la parole de Dieu nous demande de ne pas parler grossièrement. Et on est tous là à dire oui, mais un gros mot, c'est pas vraiment un gros mot, c'est un mot parmi d'autres, c'est ceci, c'est cela. Dans le langage de tous les peuples, il y a des registres de vocabulaire qui existent. Et dans ces registres de vocabulaire, il y a des mots qui sont reconnus pour être grossiers et d'autres qui ne le sont pas. Et évidemment, c'est un consensus un petit peu général d'une population qui s'accorde quelque part sur les registres de vocabulaire et qui, dans une sorte de pratique consensuelle, va faire la part entre ce qui est grossier et ce qui ne l'est pas. Pour savoir, c'est très simple, vous allez à l'école laïque et les maîtresses vous diront très vite si tel mot est un gros mot que les élèves n'emploient pas ou pas. Voilà. C'est vite fait. Mais pourquoi employer des mots pour lesquels il existe des synonymes, en fait? Notre langue est riche. Il existe des tas de synonymes, mais on dirait, mais ça n'a pas le même goût quand même. Là, il y a le goût du gros mot, tu vois. C'est... Et le gros mot, eh bien, il y a une sorte de satisfaction à l'utiliser parce que justement, il est sale et qu'il appartient à un registre grossier. Et là, on a besoin et on sent que c'est le mot qui... Ah. Malheureusement, ce sont des mots poubelles. Ce qui est sale doit aller à la poubelle. Hein. Et Jésus nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et notre bouche n'a pas à être une poubelle qui accepte des mots que, justement, s'ils n'avaient pas ce côté un petit peu, peut-être provocateur, qui franchit une limite, en fait, ce ne serait plus un gros mot, donc il n'y aurait plus aucun intérêt de l'employer. Toute la subtilité du langage est là. Nos mots et nos gros mots en disent bien plus long que nous le pensons. Et quelque part, ils traduisent une impureté de cœur. Et le Seigneur nous demande d'être saints. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Les gros mots peuvent traduire une impureté de cœur face à ce qui nous contrarie. Là, on en a deux très célèbres. Dès que vous avez un embêtement, quelque chose qui tourne mal, quelque chose que vous avez oublié, et je vous laisse la suite. On a besoin, ça sort, ça fait du bien, je ne sais pas, il y a un côté comme ça. Ouais. Mais quelque part, face à ce qui nous contrarie, le Seigneur peut-être désire que nous ayons plus de pureté, plus de sainteté, et que ça ne se finisse pas par être traduit par un langage ordurier. Évidemment, les gros mots sont des armes dans les injures entre quelqu'un, ou à propos de quelqu'un, lorsqu'on parle d'autrui. Le Seigneur nous demande de veiller sur notre langage lorsqu'on parle aux autres ou de quelqu'un d'autre, dans le choix des mots qui est fait. Et peut-être que finalement, en tout cas, sans doute, ça l'est pour moi, lorsque je l'intègre à mon langage le plus banal, c'est peut-être une allergie à trop de sainteté. Voilà un exemple. Et justement, le chrétien étant saint doit produire un langage saint. C'est une nouvelle créature. Et là, je ne parle pas que des gros mots, je parle de tout ce qui sort de notre bouche. C'est une nouvelle créature qui a rompu avec le principe dominateur du péché. Et c'est l'exemple qui nous est donné de la source. Est-ce que la source peut produire de l'eau douce et de l'eau amer en même temps? Il y a un problème de nature. Est-ce que le... Que dit-il? J'ai perdu, je ne sais plus, les olives, les figues et voilà. Est-ce qu'un figuier va produire des olives? Ben, c'est pas dans sa génétique. Le figuier va produire des figues, c'est tout. Et l'enfant de Dieu, dans sa nouvelle nature qu'il a reçue, que va produire cette nouvelle nature? Il dit, vous avez revêtu Jésus-Christ. Vous avez une nouvelle identité pour une nouvelle vie et pour une nouvelle manière de parler. Pour une nouvelle manière d'utiliser votre bouche en bénédiction et non en malédiction. Ah, nous pouvons bénir le Seigneur notre Père, chanter Alléluia, et il dit avec la même bouche après, on va maudire ces hommes faits à la ressemblance de Dieu. Il ne doit pas. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Nouvelle identité, eh bien, nous sommes heureux parce que nous avons reçu de Jésus-Christ une nouvelle nature qui nous permet une nouvelle manière de parler. Seigneur nous a donné cette capacité d'avoir un outil, une arme, non pour le mal, mais pour le bien. On revient à ce premier verset qu'on a vu, où la langue du juste est comme un arbre de vie. Le Seigneur nous a donné une nouvelle identité et il nous dit, tu peux désormais être un arbre de vie par ce qui sort de ta bouche. Et notre bouche, qui résume notre vie, notre cœur, notre bouche doit être en projet avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Notre bouche doit être en projet avec Dieu. Il était parlé dans le second proverbe qu'on a lu de celui qui parle légèrement. Nous, on a une tendance à parler, à pas forcément veiller sur nos paroles. On connaît ce proverbe populaire, il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons pris conscience que notre bouche doit être en projet avec Dieu et non plus en cheville avec le péché. C'est ça la chose. Soit notre bouche sera en projet avec Dieu, soit elle sera en cheville, en connivence avec le péché. Et nous voulons relire à cet égard Éphésiens 4, verset 29. Vous pouvez le prendre. Éphésiens 4, 29. Apprenez-le par cœur. Et c'est un verset qui souligne vraiment le fait que notre bouche doit être en projet avec Dieu et non pas en connivence avec le péché. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, on est dans le projet avec Dieu, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. La langue du juste apporte la guérison, c'est ça que disait le proverbe. Elle est un arbre de vie. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à construire, à bâtir, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà une bouche qui se met en projet avec Dieu. Et ça ne se fait pas de soi. Parce que notre langue, elle est difficile à dompter. Et il dit, on a dompté toutes sortes d'animaux, mais la langue, même en tant qu'enfant de Dieu qui a reçu une nouvelle nature, eh bien, notre langue, elle est animée par le vieil homme, souvent. Et dit, il va falloir tenir ça en bride. Il va falloir le contrôler. Et il y a une profonde décision à prendre. Et ça vaut le coup parce que quand on prend une décision par rapport à notre bouche, ben en fait, on va travailler toutes sortes de péchés, tous azimuts. C'est, il y a l'expression qui dit on fait d'une pierre deux coups, c'est ça? Là, d'une pierre, on en fait 15, 20, 30, je ne sais pas. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, et dans l'abondance du cœur, il va y avoir telle chose, telle chose, telle chose. Là, de la jalousie, là, de l'amertume, là, de la vantardise, là, un esprit de mensonge, là, de la malhonnêteté, et là. Et à un moment ou à un autre, ça va sortir par là. Donc nous, on surveille là, et comme ça, on peut travailler ce qu'il y a en amont. Vous voyez ? Pratique, finalement. Et c'est là où on va parler de la maturité. La maturité du chrétien, elle se traduit en actes, on l'a vu. Elle se traduit aussi en paroles. Et la gestion de notre bouche est un indicateur de notre maturité générale. Il le dit, il dit, au verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà un indicateur, un bon indicateur, un bon thermomètre de notre maturité avec le Seigneur Jésus. Et donc, de la même manière que notre bouche peut être un concentré de péché, eh bien, la bonne gestion de nos paroles est aussi réciproquement un concentré de notre maturité chrétienne en général. Alors, évidemment, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui ne parlent pas beaucoup. Chez ceux qui parlent beaucoup, eh bien, l'absence de maturité chrétienne, elle se voit vite. Un proverbe nous dit, même le sot, quand il se tait, passe pour sage. Bon. Donc évidemment, quand on parle beaucoup, on ne manque pas de péché, nous est-il dit ailleurs, ça se voit vite. Il y a plutôt des mutiques aussi. Hein. Alors là, les mutiques, ils peuvent passer pour saints, vous voyez. Mais non. Non, parce que la parole de Dieu nous parle que notre bouche soit en projet avec Dieu, et s'il y a lieu de donner une bonne parole qui serve à construire, à édifier, à communiquer une grâce. Et le mutique va devoir apprendre à ouvrir la bouche pour être en projet avec Dieu. Celui qui n'a pas l'habitude de tellement parler, tant mieux, il ne pêche pas beaucoup en parole, mais néanmoins, il va falloir qu'il apprenne à ouvrir la bouche pour le Seigneur. Et ça va lui donner un indicateur de sa maturité, de là où il en est. Nous pensons, par exemple, juste témoigner de Jésus-Christ aux inconvertis. Est-ce que ça ne nous est pas souvent difficile de saisir des occasions pour témoigner de la foi en Jésus-Christ? Et des fois, nous avons des occasions et on les saisit pas. Eh bien là, on peut ouvrir la bouche pour Jésus-Christ et ça nous donnera un indicateur. Et tant d'autres occasions où nous pouvons vraiment être en projet avec le Seigneur au travers de notre bouche. Et comme le dira l'apôtre plus loin, celui donc qui sait faire ce qui est bien mais qui ne le fait pas commet un péché. Et le Seigneur veut utiliser notre bouche pour être en bénédiction, pour être un arbre de vie, pour communiquer la grâce. Et lorsqu'on se tait quand on devrait parler, quand on pourrait parler, eh bien on passe à côté. Et on fait mal. Donc il n'y a pas simplement dans la gestion de notre bouche, ça ne concerne pas seulement de couper le flux des choses mauvaises qui peuvent en sortir, mais ça concerne aussi d'alimenter le flux par le Saint-Esprit des bonnes choses nécessaires qui doivent être dites pour construire et bâtir. Alors, nous terminons sur le fait que maîtriser nos paroles constitue le moyen de mûrir spirituellement. On parle de maturité et on se dit, est-ce que je veux grandir? Est-ce que je veux devenir plus mûr avec Jésus-Christ? Amen.
Amen.
Amen. Et des fois, on se dit, mais où est la clé? Est-ce que... comment je peux faire? J'aimerais un tutoriel, quoi. Bon, l'épître de Jacques en est un, à mon sens. Mais... eh bien, tiens, un bon tutoriel, c'est de m'écouter parler, c'est de veiller à mes paroles, et très vite, ça va me permettre de mûrir. Et je peux faire un bilan à la fin de mes journées de ce qui est sorti de ma bouche et de me dire, tiens, Seigneur, au fait, qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, là, c'était les blagues, c'était... là, j'ai dit ça à telle femme, c'est un peu tendancieux quand même. Est-ce que je ne suis pas dans la séduction? Est-ce que... et puis là, il y avait un peu de... là, il y avait de la dureté. Là. J'employais un ton... Et puis on analyse nos paroles, non pas pour nous flageller, mais pour apporter ça au Seigneur et dire, Seigneur, ben, dans mes paroles, ça parle de l'abondance de mon cœur, ben, c'est un bon symptôme, enfin, ce symptôme est utile en tout cas. Voilà, je constate que l'eau qui sort de la source, ben, elle est amère. Ben, Seigneur, je veux travailler ça pour sortir de l'eau douce. Et je crois que si nous prenons vraiment tout ce qui sort de notre bouche comme un thermomètre, comme un indicateur, on va vite avoir, ça va pointer du doigt des domaines et des zones du cœur à travailler avec le Seigneur. Et on pourra dire, Seigneur, tiens, c'est vrai que là, de ma bouche, là, ça pointe du doigt de l'égoïsme. Ou là, ça pointe du doigt une amertume. Ou là, ça pointe du doigt de l'orgueil. Là, ça pointe du doigt... il ne devrait pas en être ainsi. Seigneur, je veux travailler ça. Parce que, évidemment, c'est comme pour le médecin. Hein. On n'est pas juste en train de vouloir supprimer les symptômes. On veut travailler l'origine du mal. Hein. Si vous avez mal à la tête et que simplement on prend un antidouleur, peut-être qu'on passe à côté d'une tumeur, hein, etc. Donc le but n'est pas juste de dire, bon, au niveau de ma bouche, ça va être nickel, mais par contre dans le cœur, non. Le Seigneur veut utiliser ce qui sort de notre bouche pour qu'on puisse être lucide, simplement. regarder en face ce qu'il y a dans notre cœur. Ce qu'il y a dans notre cœur nous échappe souvent. On n'en a pas toujours conscience. Nos paroles le rendent visible. Alors tant mieux, parce que ça nous permet de progresser. Voilà un bon outil. Nous pouvons décider et dire, Seigneur, je veux rentrer en projet avec toi par rapport à ma bouche. Et finalement, puisque ma bouche rend visible, eh ben c'est un cadeau que tu me fais, quelque part. C'est un cadeau que tu fais pour voir peut-être des choses dans mon cœur que je ne soupçonnais pas. Mais là, à l'évidence, si je regarde les paroles, ça y est, et je veux travailler avec toi. Frères et sœurs, si nous sommes une église qui décide de nous mettre en projet dans notre bouche avec le Seigneur, nous allons grandir, nous allons mûrir rapidement. Prions. Seigneur, notre langue, c'est pas facile, et tu le dis dans ce passage, c'est du boulot. Mais en même temps, Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais de nous donner un thermomètre, une évidence, une extériorisation. Pour travailler des choses qu'on ne soupçonne pas, dont on n'a pas toujours conscience, ou qu'on nie peut-être. Mais là, elles sont évidentes. Aide-nous, Seigneur, à analyser nos paroles, à nous observer nous-mêmes dans ce qui sort de notre bouche, à nous en préoccuper. Non pas pour être tout le temps défaitiste, mais pour pouvoir nous mettre en travail. Parce que effectivement, notre langue, Seigneur, c'est le monde de l'iniquité. C'est un feu. Et Seigneur, nous voulons apprendre et grandir pour que de moins en moins notre langue blesse, pour que de moins en moins notre langue extériorise l'état de péché, mais que de plus en plus notre langue construise, édifie et communique une grâce aux auditeurs autour de nous. Fais-nous prendre conscience que nos paroles sont toujours écoutées, s'adressent toujours à quelqu'un. Si nous parlons à nous-mêmes ou si nous parlons comme ça sans nous adresser à quelqu'un, elles sont souvent entendues. Et même les puissances spirituelles, sont attentives à ce qui sort de notre bouche. Seigneur, nous voulons te glorifier par notre bouche, authentiquement, avec un cœur qui cherche à ce que tu le purifies, à ce que tu le nettoies, jour après jour. Seigneur, nous avons peut-être besoin simplement de prendre cette décision d'utiliser notre bouche comme un outil pour grandir. Que nous puissions, en tout cas, te glorifier par nos paroles. Au nom de Jésus. Amen.